take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya?
Il est 6h à Paris et Madrid, 4h en temps universel. Et 5h à Rabat. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet.
Et à la une de votre demi-heure d'actualité, ces tensions migratoires à Ceuta.
Et l'enclave espagnole débordée avec l'entrée de centaines, voire de milliers de Marocains. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez se rendra sur place aujourd'hui. L'Europe continue de se battre contre de violents incendies. De nouveaux foyers déclarés en Espagne. En Grèce, une amélioration en revanche dans le sud-ouest de la France, où des milliers de personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. Le secteur viticole, lui, échappe au pire, mais les risques ne sont pas tout à fait écartés. Le président américain annonce un accord pour le désarmement du Hamas. Cela voudrait dire que la deuxième phase du plan de paix de Donald Trump se met en place. Pas de confirmation israélienne pour le moment. Au Mali, les frappes de paramilitaires russes d'Africa Corps sur un village du centre le 15 juin n'ont fait que des victimes civiles, alors que c'était des djihadistes du SNIM qui étaient visés. C'est ce que révèle ce matin une enquête de l'ONG Human Rights Watch. Et puis la levée de boucliers contre le projet de Gianni Infantino, président de la FIFA, projet pour ouvrir la Coupe du Monde de football aux investisseurs privés. L'UEFA, l'instance européenne du foot, menace de boycotter les prochaines compétitions. Le Premier ministre espagnol attendu aujourd'hui à Ceuta. Pedro Sanchez se rendra sur l'enclave espagnole frontalière avec le Maroc, théâtre de tensions migratoires. Ces derniers jours, plus de 1500 migrants sont arrivés dans ce territoire, parfois à la nage. Au moins 9 personnes sont mortes en tentant de rejoindre Ceuta. Les centres d'accueil, eux, sont saturés. Les autorités aux frontières débordées. L'Espagne a déployé des soldats pour épauler ces gardes-frontières. Madrid continue aussi de coopérer avec le Maroc. Une coopération qui s'est beaucoup améliorée ces derniers temps, selon Mehdi Alioua, sociologue à Sciences Po Rabat.
La coopération fonctionne très bien en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, là, ce que je regarde pour ça spécifiquement, c'est que les Espagnols ont laissé, en fait, au final, rentrer les Marocains parce qu'ils étaient débordés par les frontières. Et pour éviter un drame avec des amassements aux frontières et des morts, ils ont préféré ouvrir, notamment en collaboration avec les autorités marocaines, pour éviter ce qui s'était passé il y a quelques années, notamment dans une autre enclave, cette enceinte. Un comptoir colonial qui s'appelle Mililia, dans lequel il y a eu des personnes qui ont été nassées au niveau des postes frontières, qui se sont écrasées sur les barrières en acier renforcé construites par l'Europe et par l'Espagne. Et donc pour éviter, parce qu'on a un gouvernement espagnol différent et une meilleure coopération avec le Maroc, on a laissé rentrer les gens parce que ça servait à rien d'avoir un drame humanitaire.
Mehdi Alioua, sociologue à Sciences Po Rabat, propos recueillis par Achim Lippold. Les autorités régionales ont évoqué tout de même une urgence humanitaire et sociale absolue. Pour l'instant, le Maroc n'a pas réagi officiellement à ces rassemblements à la frontière qui se déroulent en pleine fête du trône. Le roi Mohamed VI célébrait hier ses 27 ans de règne. Ailleurs en Méditerranée, les tentatives de traverser depuis la Libye ou la Tunisie sont quotidiennes. On sera après ce journal à bord du navire humanitaire Ocean Viking et qui porte secours aux migrants qui risquent leur vie pour tenter d'atteindre le continent européen. L'Europe qui combat toujours les incendies. En Espagne, fin de l'urgence nationale dans la région de Madrid, mais d'autres foyers continuent de se déclarer ailleurs dans le pays, comme à la frontière avec le Portugal. Dans la province de Zamora, 11 000 hectares sont partis en fumée en 24 heures. La Grèce aussi se bat contre plusieurs feux. Trois pompiers sont morts ces derniers jours, dont deux en Crète. C'est sur cette île que la bataille est la plus acharnée. Environ 8 000 habitants et touristes ont dû être évacués, Emmanuel Stills.
Certains Grecs disaient que la saison des incendies avait presque été calme jusqu'à présent, mais depuis mercredi, les feux dévastateurs sont bel et bien de retour. Le plus grave dans le district de Rétimno, en Crète, où des touristes et des habitants ont dû être évacués par la mer, par les gardes-côtes et sur des bateaux de pêcheurs. Mais pourquoi les feux sont-ils si difficiles à contrôler sur les îles grecques? Les flammes sont avivées par des vents violents qui changent sans cesse de direction. Les rafales, atteignant parfois plus de 100 km/h, combinées à la fumée, rendent la visibilité pratiquement nulle. Pour ces raisons, sur l'île de Paros et en Crète, il est presque impossible de larguer de l'eau depuis les airs, selon les services grecs de protection civile, qui soulignent aussi les difficultés évidentes pour déployer des pompiers sur différentes îles quand autant de foyers se déclarent en même temps. À Rétimno, deux pompiers sont morts mercredi et un autre à Gythio dans le Péloponnèse. Ce vendredi, les régions du centre et du sud de la Grèce et pratiquement toutes les îles sont placées en vigilance orange, ce qui correspond à un risque très élevé d'incendie. Emmanuel Stills, Athènes, RFI.
Ailleurs en Europe, une centaine de pompiers est mobilisée contre un incendie dans l'est de l'Angleterre avec là aussi des évacuations. En France, une première journée un peu optimiste une semaine après le méga-feu en Gironde. C'est ce qu'a dit hier la préfète de ce département du sud-ouest. Les personnes évacuées peuvent peu à peu rentrer chez elles, mais les sols restent très secs. Les risques de nouveaux départs de feu sont importants. Dans cette région très connue pour son vin, les producteurs ont frôlé la catastrophe, mais restent prudents. Agnieszka Kumor.
Sur la commune de Léognan, dans le sud-ouest de Bordeaux, les habitants se préparaient à être évacués ce lundi, mais par chance, le vent a tourné. Olivier Bernard, gérant du domaine de Chevalier, grand cru classé de grave.
Finalement, dans la nuit, le vent qui était nord-nord-est, très sec, dans la journée de samedi, le vent est tourné à l'ouest et on est passé à 83% d'humidité. Jusqu'à samedi, les incendies étaient galopants, ils ont été calmés. Par, bien sûr, l'intervention des pompiers, des brigades, des avions, mais surtout par le vent qui est passé à l'ouest.
À 10 km de là, le feu, mais les vignes n'ont pas trop souffert.
Non, vous savez, on a connu l'Andiras chez nous, qui était un énorme feu de plus de 20 000 hectares à quelques kilomètres de chez nous. Bien sûr, les raisins sont très sensibles au goût et aux odeurs. C'est samedi dans l'après-midi qu'on a eu des fumées les plus fortes et on n'a pas souffert plus que ça. Moi, je connais des vignobles en Californie dont le feu était aux portes des vignobles, mais pas chez nous.
Et tant que le feu n'est pas définitivement éteint, on reste mobilisé.
Les redémarrages de feu de ces tourbes à un mètre de profondeur, c'est à surveiller de très près.
Car l'incendie de l'Andiras en 2022 a laissé des traces. 20 mois plus tard, malgré les précipitations, le sous-sol brûlait encore.
Agnieszka Kumor, un accord historique pour le désarmement complet du Hamas annonce il y a quelques heures du président américain sur son réseau Truth Social. Le désarmement du Hamas est l'un des points clés de la deuxième phase du plan de paix de Donald Trump. Pour mettre fin à la guerre à Gaza, ça fait des semaines que des négociations sont en cours en Égypte pour ouvrir cette seconde phase. Donald Trump précise qu'Israël quittera l'enclave palestinienne une fois que le groupe islamique, sera bien désarmé. Une réunion des médiateurs doit se dérouler bientôt en Égypte. Israël, de son côté, n'a pas encore communiqué sur cet accord. Au Mali, Human Rights Watch publie une enquête sur des frappes aériennes menées par Africa Corps. C'était le 15 juin dernier sur le village de de Kirnia, dans la région de Mopti, dans le centre. L'ONG de défense des droits humains révèle que des djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda étaient bien présents à Kirnia ce jour-là, mais que les bombardements d'Africa Corps, organisation paramilitaire russe, n'ont fait que des victimes civiles, 8, dont 3 enfants, David Baché.
Le JNIM lié à Al-Qaïda contrôle Kirnia depuis 6 ans, rappelle Human Rights Watch. Et ce jour-là, une centaine de djihadistes étaient bien présents dans le village, selon les informations recoupées par l'ONG auprès d'habitants, témoins directs des frappes, mais aussi de militaires maliens, de membres de la société civile ou de leaders communautaires. Le problème, c'est que ces frappes aériennes indiscriminées, effectuées par un avion Sukhoi de l'Afrika Korps un jour de marché, lorsque Kirnia était bondée, précise Human Rights Watch, n'ont fait que des victimes civiles. Selon l'enquête menée par l'ONG, les djihadistes s'étaient rassemblés principalement à la mosquée du village et devant un magasin près d'un petit marché à bestiaux. Or, ce sont les abords de la résidence du chef du village et le marché à bestiaux qui ont été ciblés. Parmi les victimes, selon Human Rights Watch, aucun djihadiste, mais 8 civils. 3 enfants de moins de 10 ans, une femme de 24 ans et 4 hommes. Quelques jours plus tard, l'Afrika Korps russe, partenaire de l'armée malienne, revendique ces frappes, affirmant avoir détruit un lieu de rassemblement de groupes terroristes et tué plusieurs chefs. Le ministère russe de la Défense n'a jamais répondu aux sollicitations de Human Rights Watch.
RFI 4h09 en temps universel, 1h09 à Buenos Aires, en Argentine. Le président signe un décret pour interdire de territoire les étrangers qui diffusent des messages de haine contre l'Argentine. Javier Milei dénonce une campagne de haine anti-Argentine sur les réseaux sociaux lors de la Coupe du Monde de football. Il accuse même le Brésil et le Mexique d'avoir financé cette campagne. Correspondance à Buenos Aires de Caroline Vic.
Un décret d'urgence publié au bulletin officiel en pleine nuit et modifiant la loi d'immigration. Le texte stipule que tout étranger qui diffuse des messages de haine, de discrimination et d'hostilité contre le peuple argentin, sa culture et son identité nationale sera interdit de territoire. Et s'il habite en Argentine, sa carte de résident sera résiliée et il risque même l'expulsion. La campagne anti-Argentine a été en vogue ces dernières semaines pendant la Coupe du Monde, après les théories sur de supposés bénéfices octroyés à la sélection argentine et après des comportements violents de certains joueurs ou supporters. Mais alors que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire et que les tensions sur les réseaux sociaux sont en train de retomber, pourquoi Javier Milei revient-il à la charge? Pour l'opposition, Milei utilise cette campagne comme une excuse pour durcir sa politique migratoire à la Trump. Et cela quelques semaines après avoir créé son programme de sécurité migratoire, largement inspiré de son allié américain et en pleine tension avec le Brésil et le Mexique. Le décret entrera aujourd'hui en vigueur. Une commission parlementaire aura ensuite 10 jours pour envoyer le texte au Congrès. Caroline Vic à Buenos Aires, RFI.
L'Argentine qui ne peut toujours pas tourner la page du mondial puisque la FIFA ouvre 2 procédures disciplinaires à la fois contre la Fédération de foot nationale mais aussi contre plusieurs joueurs. L'instance mondiale du football reproche notamment à la sélection d'avoir déployé une banderole sur les Malouines pendant sa demi-finale contre l'Angleterre. Une autre procédure concerne les violences de certains joueurs et de membres du staff technique contre leurs homologues espagnols après le coup de sifflet final lors donc de cette finale du mondial. La FIFA, elle aussi, est au centre d'une polémique. Elle a présenté mardi un projet pour vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Ce projet provoque une levée de boucliers. L'UEFA, l'instance européenne du foot, menace de boycott Baba Cardiara.
Unis contre Gianni Infantino, la réunion d'urgence des patrons de fédération de l'UEFA a permis de centraliser un sentiment général, celui que le président de la FIFA pourrait faire basculer le monde du football en ouvrant la société commerciale de l'institution à des investisseurs privés. Dans son communiqué, l'UEFA insiste sur le risque de mettre en péril le rôle de garant du football mondial de l'organisation. L'Europe du ballon rond refuse que la Coupe du Monde soit en vente, les Coupes du Monde d'ailleurs, car la décision a été prise de ne participer à aucune compétition FIFA tant que la proposition est sur la table. La première épreuve impactée arrive début septembre, ce serait le mondial féminin des moins de 20 ans et la menace aurait des conséquences car au-delà de l'absence des 6 nations européennes qualifiées, il faut faudrait trouver un autre pays hôte, la Pologne étant en charge de l'accueillir. L'UEFA et son président Alexander Seferin sont en guerre ouverte depuis plusieurs années avec Gianni Infantino, le Slovène étant préoccupé par la gouvernance politisée du dirigeant suisse.
Une précision signée Babacar Diarra et une autre organisation, la CONCACAF, qui regroupe 41 fédérations de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, a hier, elle aussi, rejeté le projet de la FIFA. Vous lisez d'autres articles d'analyse sur notre site internet www.rfi.fr. Toujours en football, cette fois sur le terrain, la suite des phases de groupe à la CAN féminine, le pays hôte, le Maroc, s'est qualifié hier pour les quarts de finale, après sa victoire 1-0 contre l'Algérie. Pour se qualifier, les Algériennes, elles devront battre lundi les Kenyanes. Ces dernières sont d'ores et déjà éliminées après leur défaite 1-0 contre le Sénégal. Le Sénégal devra réaliser l'exploit contre le Maroc lundi aussi pour espérer rallier l'écart. Aujourd'hui, parmi les matchs à venir, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, coup d'envoi à 17h temps universel. Pour l'heure, il est 4h13 en temps universel, 6h13 à Paris. On poursuit ensemble notre tour du monde de l'actualité. On sera d'abord à bord de l'Ocean Viking. RFI vous embarque dans le navire humanitaire depuis le début du mois. Il a secouru, il y a quelques jours, 38 migrants en mer Méditerranée. Ils risquaient leur vie pour arriver sur le continent européen. Avec notre correspondant en Pologne, on va parler de cette vague de haine de plus en plus forte contre les réfugiés ukrainiens. Nos invités culture ce matin forment le collectif Nana Benz du Togo, dont la musique pioche dans le patrimoine vaudou avec des paroles militantes, féministes et écolo. À suivre également notre conseil santé de la musique à nouveau avec le choix de nos programmateurs. Tout cela avant le retour de l'actualité africaine. Depuis le début du mois, RFI vous emmène à bord de l'Ocean Viking, le bateau de sauvetage de SOS Méditerranée. Il patrouille dans les eaux internationales au large de la Libye et vient secourir les migrants qui risquent leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe. Il y a deux semaines, l'équipage est venu en aide à 38 personnes, principalement issues d'Érythrée, du Soudan et de Somalie. Leur barque de fortune en fer rouillé menaçait de chavirer à tout moment. Il manquait aussi d'eau, de carburant. Une fois à bord de l'Ocean Viking, ils ont raconté leur périple à notre envoyé spécial, Elliot Brachet. Pour leur sécurité, leurs prénoms ont été changés.
Sur le pont de l'Ocean Viking, les rescapés jouent aux cartes pour tuer le temps. Un peu de légèreté sous une chaleur écrasante, de quoi dissiper un instant les souvenirs du passé. Hadro, 25 ans, vient d'un petit village en Érythrée.
Why are you so scared? Go to that place, Sierra Mountain Top. Slow your foot pace. Roll down the street with options. You wonder, you pay for this time of indecision. Why are you so scared? Go to that place, Sierra Mountain Top. Slow your footpace. Float down the street with options. You wonder, you pay. Why are you so scared? Go to that place, Sierra mountaintop. Slow your foot pace, float down the street with options. You wonder, you pay.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur la modulation de fréquence.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.